Thank you, choir, for that beautiful number.
Merci beaucoup, le chœur, pour cette musique merveilleuse. Merci d'avoir chanté si merveilleusement. Chers frères et sœurs, je suis très heureuse de m'adresser à vous ce soir. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui a fortifié ma foi tout au long de mon existence. Une chose dont j'ai pris conscience est que notre Père Céleste nous vient réellement en aide, tout spécialement lorsque nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter ses commandements et bâtir son royaume sur terre. C'est le genre de foi dont Néphi le prophète a fait preuve tout au long de sa vie. Bien qu'il soit passé par beaucoup d'afflictions et d'oppositions, il est toujours resté ferme et a toujours remercié Dieu de ses bénédictions. Voici ce qu'il dit après 8 ans d'errance dans le désert. Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit et les fortifie et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir la chose qu'il leur a commandée. C'est pourquoi il nous fournit des moyens pendant que nous séjournions dans le désert. Je sais que ce principe est vrai. Je vais vous raconter une histoire qui fait partie de l'histoire de l'Église. Vers la fin de l'année 1830, la plupart des membres de l'Église se rassemblèrent dans l'État du Missouri où ils espéraient établir Sion. Mais ils se virent forcés par la populace à quitter l'État en 1839. Leurs maisons furent détruites, on déroba leur bétail et leurs affaires personnelles. Ils voyagèrent en direction du nord-est vers l'État d'Illinois et ils s'établirent dans une région marécageuse sur les berges du Mississippi. Ils asséchèrent le marécage et bâtirent une belle ville qu'ils appelèrent Nauvoo. Mais l'hostilité contre l'Église persista et Joseph Smith, le prophète, fut assassiné avec son frère Hiram à peine 5 années plus tard. Leur temple à peine terminé, ils furent chassés à nouveau en février 1846 et durent s'enfuir en traversant le Mississippi au pire moment de l'hiver. Il y avait parmi eux un homme du nom de Benjamin Johnson, mon arrière-arrière-grand-père, accompagné de sa famille qui se composait de jeunes enfants. Il a fait la description de ces événements dans sa propre biographie. Nous devions affronter le milieu de l'hiver sans un dollar et sans connaître la longueur de notre voyage, ni combien de temps il prendrait, avec assez de provisions pour nous soutenir quelques semaines au plus et dans un état de santé qui ne cessait d'empirer depuis l'année précédente. Il m'arrivait souvent de souffrir de maux d'estomac aigus qui me faisaient parfois transpirer par chaque pore. Ces maux ainsi que d'autres problèmes digestifs me rendaient incapable d'accomplir de tels travaux de force. Les seules tâches de prendre soin des attelages et d'assumer quelques autres responsabilités dans le camp me paraissaient déjà considérables. Après quelques jours dans le camp, certains ont commencé à se plaindre de leurs difficultés ainsi que de leurs mauvaises conditions de voyage. C'est alors que le président Brigham Young s'est mis à rugir contre eux comme un lion, leur disant que tous ceux qui ne pouvaient pas se contenter de haricots bouillis et de maïs devraient mettre leur confiance en Dieu et être reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Autrement, ils devraient immédiatement rebrousser chemin, car le camp des saints serait un endroit de misère pour eux. J'ai pris cette déclaration comme la parole de Dieu, mais qu'allais-je en faire? Pendant longtemps, je ne pouvais pas manger du pain au maïs ou des haricots, car ils me causaient des douleurs d'estomac insupportables. Donc, comment pourrais-je continuer lorsque la nourriture était principalement constituée de blé et de haricots? J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait là d'une question de vie ou de mort pour moi. J'interromps cette histoire pour souligner que quelques années auparavant, sa sœur était décédée des mêmes problèmes d'estomac à l'âge de 22 ans. Donc, ses craintes n'avaient vraisemblablement rien d'exagéré. Il poursuit. J'ai discuté de cette question avec ma famille. Je leur ai déclaré que j'étais là pour faire confiance au Seigneur et que s'il n'était pas avec nous, il n'était certainement pas non plus derrière. Et il n'était pas question que je fasse demi-tour. J'étais disposée à manger la nourriture dont nous disposions et à en être reconnaissant. Et si le Seigneur ne prenait pas soin de nous maintenant, plutôt nous mourrions tous, mieux cela vaudrait, car nous ne serions pas en mesure de prendre soin de nous-mêmes ou de protéger nos vies au cours de ce voyage. Un mois plus tard, il fait état dans son journal personnel. Les haricots et le maïs, autrefois immangeables, prirent un goût délicieux, au point qu'à partir de ce moment, je n'eus plus aucune mauvaise réaction au cours du voyage. En reprenant les paroles de son serviteur, j'ai dit au Seigneur que grâce à son aide, je satisferais toutes ses exigences. Donc, si c'était sa volonté que je vive pour le servir, il fallait qu'il rende ma nourriture assimilable par mon estomac. Je sais que c'est ce qu'il a fait. La foi de mes ancêtres ainsi que l'exemple des prophètes m'ont fortifié tout au long de ma vie et m'ont aidé à faire confiance au Seigneur, même dans les moments difficiles. Je me souviens de l'époque de notre mariage où nos finances étaient extrêmement limitées. Nous avions deux petits-enfants à l'époque où frère Christopherson effectuait des études universitaires avancées. Nous avions décidé qu'après avoir eu des enfants, je ne travaillerais pas en dehors du foyer. Je me suis donc efforcée de faire ce que je pouvais pour gagner un peu d'argent de chez nous pour contribuer à nos finances. Mon mari avait également deux emplois à mi-temps ainsi qu'un emploi d'été qui représentait la part majeure de nos revenus. Cependant, cela faisait bien peu. Nous étions convenus que nos dépenses devaient se limiter à acheter de la nourriture, payer notre loyer et mettre de l'essence dans notre voiture. Un dimanche, juste 2 mois avant la remise de diplôme de frère Christopherson, notre évêque nous fit part d'un plan pour le fonds de construction qui permettrait la rénovation de notre vieille église. Il était demandé à chaque famille de verser une somme déterminée pour couvrir les dépenses. Nous ne faisons plus ce genre d'estimation pour le fonds de construction, mais les paroisses et pieux de l'époque assumaient une partie du coût de construction ou de rénovation des églises en supplément du versement de la dîme que nous payions également. Tout comme les autres membres de la paroisse, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de l'évêque pour discuter de ce que nous pourrions verser en fonction de nos revenus. La somme qui nous était suggérée n'était pas élevée, mais nous nous retrouverions ainsi avec bien peu d'argent. Certains étudiants en études universitaires avancées se trouvaient dans la même situation que nous et allaient bientôt déménager. Ils considéraient qu'il n'était pas juste de devoir contribuer au fonds de construction, car ils ne seraient pas là une fois les travaux de rénovation terminés. Nous avons cependant décidé de faire notre don au fonds de construction sans vraiment savoir comment nous pourrions tenir financièrement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous pensez peut-être qu'il nous suffisait de faire ce paiement par carte de crédit et de rembourser notre dette par mensualité. Mais on ne pouvait pas faire cela à l'époque. De notre temps, on obtenait une carte de crédit qu'en fournissant une preuve d'emploi à plein temps et avec un certain niveau de salaire. Nous ne remplissions donc pas les conditions requises pour avoir accès à une carte de crédit. Cela pouvait paraître dur, mais une réglementation plus stricte de nos jours pour l'obtention d'une carte de crédit aurait pu préserver beaucoup de gens de finir endettés jusqu'au cou. En tout état de cause, à peine 2 semaines plus tard, tandis que nous roulions un soir sur une route tranquille, nous nous sommes arrêtés à un panneau d'arrêt. Nous avons tout à coup entendu un crissement de frein et l'arrière de notre vieille voiture a été percuté. Frère Christopherson est sorti pour voir ce qui se passait. Je suis restée dans la voiture. Au bout d'un moment, il est retourné dans la voiture et je lui ai demandé ce qui se passait. Il s'est contenté de dire que le pare-choc avait été abîmé. Il m'a dit que l'homme qui nous avait percuté était un représentant de commerce en déplacement et qu'il vivait dans une autre ville. L'homme savait que ses freins n'étaient pas bons, mais il ne savait pas à quel point. Il a expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour travailler et espérait que nous pourrions nous entendre à titre privé afin d'éviter une augmentation de son assurance automobile. Après tout, personne n'avait été blessé. Je pense qu'il se trouvait lui aussi très limité financièrement. Il nous a dit que si nous pouvions obtenir une estimation du coût des réparations et venir la lui communiquer à son motel, qui se trouvait en périphérie de la ville, il nous paierait directement. Cependant, je n'étais pas tombée de la dernière pluie. J'ai pensé que mon mari chéri, en qui j'avais toute confiance, s'était révélé bien naïf dans cette situation. Est-ce qu'il pensait vraiment que cet homme honorerait sa promesse? Quel était le risque que cet homme disparaisse? Finalement, frère Christopherson a obtenu l'estimation pour la réparation. Il est allé voir cet homme à son motel. Cet homme a fait un chèque pour la somme réclamée et devinez quoi? Ce n'était pas un chèque sans provision. Voici à présent le reste de l'histoire. Ce chèque correspondait pratiquement au montant que nous venions de verser pour le fonds de construction. Nous pouvions certainement attendre qu'il reçoive un chèque de paie conséquent pour faire effectuer la réparation. En attendant, nous pûmes joindre les deux bouts, ce dont nous doutions. Ce fut un témoignage pour nous que le Seigneur, comme Néphi l'a écrit, fournit les moyens par lesquels nous pouvons accomplir la chose qu'il nous a commandée. Je suis reconnaissante d'avoir un Père céleste aimant qui veille sur nous et se soucie de nous. Je sais que c'est son Église et que notre Sauveur vit. Je remercie le Seigneur des bénédictions que l'Évangile a apportées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen.